Je vais commencer par une citation qui n'est pas sur le PowerPoint, qui est une citation du prince Philippe d'Édimbourg, vieux mari de la reine, le prince consort, qui marche toujours quelques pas derrière elle. Et ceci pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il vient d'une famille qui était très proche des milieux nazis, et il n'a jamais pu obtenir le statut de roi. Et voici ce qu'il disait en 1984, il me semble, en préface d'un livre. Je me demande de quoi ça aurait l'air d'être réincarné dans un animal dont l'espèce aurait été tellement réduite à un nombre si dérisoire et à un risque de danger d'extinction. Qu'est-ce que je ressentirais parmi cette espèce humaine dont la population a explosé et qui a dénié le droit d'existence aux autres espèces. Je dois confesser que je suis tenté de demander à être réincarné en un virus particulièrement mortel. Alors il se trouve que le prince Philippe est le fondateur du WWF en 1961. Et qu'il est avec le prince Charles le mécène, le parrain de la conférence de Rio de 1992 qui a lancé le cycle des Conference of Parties, les conférences qui réunissent les nations pour le climat tous les ans, donc depuis 1992. Et on a en fait affaire à une prise idéologique de contrôle du débat sur le climat par des gens qui ont un agenda qui, en fait, semble bien éloigné des préoccupations purement environnementales, mais qui semble bien plus proche d'un agenda qu'on appelle malthusien. Je pense que pour se faire une idée de ça, il faut comprendre les liens de la famille royale britannique avec la City de Londres, avec la Banque d'Angleterre et avec le renseignement. Ces quatre-là marchent ensemble et ont mené une politique qui était toujours de dépopulation dans l'Empire britannique. Si vous prenez l'exemple du révérend Thomas Malthus, qui a donné son nom au malthusianisme, il a été porté au grade de professeur du collège de la Compagnie britannique des Indes orientales, poste qui a été spécialement conçu pour lui, afin de former les administrateurs des colonies, dans lesquelles des famines à répétition, notamment en Inde, se sont produites jusqu'au départ des troupes britanniques, et jusqu'au tout dernier moment de la colonisation d'ailleurs, dont les troubles notamment qui ont opposé les musulmans aux hindous. Et si vous regardez, en fait, donc, par rapport à la création du WWF en 61, la conférence de Rio en 92, vous avez toute une discussion qui se met en place dans les années 60 sur la surpopulation, et notamment en pointant la démographie indienne. Alors c'est là que je vous propose de rentrer plus dans quelque chose d'optimiste. Que vous avez un agronome qui s'appelle Norman Borlaug, qui est américain, et qui a sauvé 1 milliard de vies. Et notamment, il a démenti ses prévisions catastrophistes sur la démographie indienne, sur le fait que, soi-disant, l'Inde ne pourrait jamais atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tous les experts étaient unanimes, tous les logiciens, les gens qui présentent une pensée logique, disons, voyaient comme inatteignable cet objectif, et lui l'a fait. Lui a pris le pari de faire cette révolution verte dont il est le père. Et parlant des écologistes, qui, dans les séminaires, les conférences, toutes ces assemblées dans lesquelles les princes et les puissants s'expriment sur le devenir de la planète, déjà à l'époque, et sur le risque de surpopulation, eh bien, il parlait de ces gens en ces termes-là. Il disait, s'ils vivaient, ne serait-ce qu'un mois, parmi la misère des pays en voie de développement, comme je l'ai fait, ils pleureraient pour avoir des tracteurs, des engrais et des canaux d'irrigation, et s'offusqueraient que des élitistes à la mode leur empêchent de disposer de ces outils. Cette introduction, pour vous inviter à ce que nous ne tombions pas immédiatement dans une discussion au cul des vaches sur les effets réchauffants du méthane et du protoxyde d'azote et toutes ces considérations qui peuvent être fort utiles, mais très éloignées du problème politique, en fait, devrait vraiment nous intéresser, à savoir qui a, disons, investi, accaparé le domaine de l'écologie politique et qui en a fait quelque part sa chose qu'il puisse contrôler, et notamment la question climatique. Face à cela, moi, l'organisation à laquelle j'appartiens, depuis seulement 10 ans, se bat depuis au moins 79 pour une remise à plat des règles économiques qui sont avec l'idéologie, disons, de ce pessimisme, de cette écologie dévoyée, c'est le moyen économique qui permet de tenir les gens matériellement, et l'écologie, on va dire, culturellement. Et nous avons proposé tout un ensemble, en fait, en opposition à ce malthusianisme, de grands projets d'infrastructure. Et je pense que c'est ça aussi, aujourd'hui, qui devrait être considéré comme une véritable écologie. Pour vous en persuader, je vous dirai une chose en plus pour cette introduction, que le 11 février, donc il y a 5 jours, a été publié un rapport de la Chatham House, qui est l'équivalent britannique du Council on Foreign Relations américain, c'est-à-dire un think tank très discret, des cercles que je vous ai mentionnés, de ces quatre concubins de la politique britannique, à savoir la monarchie, la Banque d'Angleterre, la City de Londres et le renseignement. Et la Chatham House, donc, propose dans ce rapport, eh bien, ni plus ni moins que de réduire la production de nourriture à l'échelle du monde de un tiers pour réduire les effets de l'agriculture sur la biodiversité. Alors, ce qu'ils disent, hein, ils ont raison, hein, ça c'est un fait, c'est toujours comme ça qu'on, par des faits, qu'on présente les choses pour ensuite dévier les gens. C'est que l'agriculture a doublé son emprise foncière en, il me semble, un siècle. Il faut regarder, mais enfin, c'est ce type de choses. Et c'est tout à fait vrai. Et vous voyez, ce que Norman Borloo, ça intéressera notre ami forestier, a fait, c'est en conscience justement de ce problème, parce que Norman Borloo aimait la forêt, il voulait sauver les gens, bien sûr, hein, c'est un anti-malthusien, mais il considérait qu'effectivement, la solution, c'était pas de d'étendre l'agriculture, mais c'était de l'intensifier. Et en réponse à la Chatham House, vous avez un forum qui s'appelle la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, le réseau Farm, donc, soutenu par le Crédit Agricole. Vous voyez d'autres financiers, mais qui ne sont pas d'accord avec les premiers, et qui, eux, disent il faut cette intensification, autrement, les gens vont se ruer sur la forêt pour défricher et faire cette agriculture extensive. Et la Chatham House a tort. Donc là, on est face à une nuance vis-à-vis de la finance. Et je pense que c'est très important de comprendre ça, parce qu'on est à un moment, en fait, où il y a un renversement entre des gens qui représentent un capitalisme qui est basé sur la production, sur l'équipement de l'homme, de la nature, imparfaitement, hein, c'est quand même le Crédit Agricole, et des financiers qui ont une approche purement géopolitique de dépeupler notamment l'Afrique, qui sera la première victime de cette politique, pour ne plus avoir de résistance sur le terrain. La question démographique se pose en ces termes-là, toujours. Je passe donc à la suite, qui est la véritable introduction. Alors concrètement, ce sont ces milliardaires verts qui comptent affamer le monde. Mais voilà comment ça se passe. Vous avez par exemple un homme qui s'appelle Marc Carney, qui est l'ancien banquier central du Canada, qui est l'homme qui a sauvé l'économie mondiale en 2007-2008, parce qu'il a été celui qui a eu l'audace de sortir de la rigueur monétaire, de l'orthodoxie, et de faire tourner massivement la planche à billets. Eh bien, il est devenu ambassadeur de l'ONU sur le changement climatique. Il a prononcé un discours notamment à Paris, au One Summit Planet, en présence d'Emmanuel Macron, et dans une autre instance qui s'appelle le Jackson Hole. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Les entreprises qui ne s'adapteront pas à l'urgence climatique disparaîtront. » Bien ça, vous voyez, de la part d'un banquier central, ça a une signification. Parce qu'un banquier central, peut-être certains l'ignorent, en fait, est celui qui crée la monnaie et l'orientation depuis la crise de 2008 est celle d'attribuer de nouveaux rôles à ces banquiers centraux. Ils n'ont plus seulement une fonction de réguler la quantité de monnaie, c'est-à-dire l'inflation et ce type de critères. Maintenant, ils ont un rôle politique, ils ont un rôle de sauver le système. Ils ont un rôle, pourquoi pas, donc maintenant, puisque nous avons eu la crise financière, nous avons la crise climatique, eh bien, de sauver le climat. Donc, deux possibilités. Soit c'est une formidable chance pour l'humanité que d'avoir Marc Carney, qui est un banquier audacieux. Ou alors, c'est une fraude. Et moi, c'est ce que je vais chercher à vous montrer. Et je pense que vous allez mieux voir pourquoi au fil de la discussion, et aussi, je pense, il y aura des questions là-dessus. Pourquoi, en fait, l'agriculture qui est proposée, l'agriculture de type bas carbone, est une politique meurtrière, une politique de dépopulation. Donc un banquier central, c'est très important. Ensuite, je vais reprendre par la fin, vous avez Larry Fink. Alors lui est PDG de BlackRock. Alors là, c'est aussi très intéressant parce que vous avez une autre façon d'orienter la monnaie, donc qui n'est plus celle d'un pouvoir qui peut décider de renflouer tel ou tel secteur de l'économie, mais qui est celle ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux un influenceur, mais là, dans le domaine de la finance, c'est un gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire que BlackRock, grâce à ses compétences en algorithmique, est capable d'anticiper les mouvements de marché. Le métier qu'il s'est donné est celui de gestionnaire d'actifs, il conseille ses clients. Ce qui signifie qu'il n'est pas lui-même détenteur des capitaux, mais il influence la direction dans laquelle ils s'investissent. Et Larry Fink, PDG de BlackRock, alors vous le voyez, ce sont bien des panneaux solaires derrière lui. Je doute que ce soit les panneaux solaires de la mission saoudienne ou de la mission américaine qui se sont dirigés vers Mars en ce mois de février. Effectivement, je pense que qui l'intéresse lui beaucoup plus, ce sont des investissements peu coûteux et avec des subventions publiques. Et ne pas trop se prendre la tête avec des choses intelligentes comme le spatial ou le nucléaire, par exemple. Alors, si vous prenez BlackRock, c'est un tiers du PIB chinois. Si vous prenez BlackRock et les deux autres plus gros gestionnaires, c'est le PIB chinois. Donc c'est une réelle capacité à orienter l'économie. Et lui a déclaré qu'il ferait tout maintenant pour conseiller à ses clients. Alors il a le cul entre deux chaises, hein, qui repose encore sur les investissements carbonés, mais d'en sortir et de s'orienter vers l'économie verte. Et enfin, au centre, vous avez Al Gore, qu'on ne présente plus, qui est la star du film Une vérité qui dérange, et qui a passablement d'ailleurs flouté tout le monde. Je pourrais vous en faire la démonstration si ça vous intéresse tout à l'heure, quand il a pris son... Si vous avez vu le film, si il est sur un elevator, et... Enfin bref, il explique que la température va exploser. Ce qui est une question, on peut en discuter, bien sûr. Mais là, ce qui est très dérangeant, c'est l'OPA sur le sujet, à mon avis, et les conclusions dans lesquelles ils veulent nous attirer. Bah, lui est tout simplement président de Generation Investment Management. LLP, c'est pour les investissements investis à long terme, soi-disant. Et en fait, tout simplement, il spécule sur le carbone et sur les droits à émission du carbone. Donc voilà, je pose la question. Qui sont ces gens ? Alors, je vous invite à passer à la suite. On va zoomer sur un organisme qui s'appelle la European Climate Foundation et qui collecte l'argent de fondations anglo-américaines, parmi lesquelles vous trouverez la fondation du Mania, des médias Bloomberg, ou encore vous trouverez les gens de la Silicon Valley avec Hewlett Packard. Vous trouverez des purs financiers comme Rockefeller. Enfin voilà, tous ces intérêts financiers anglo-américains qui, à travers la European Climate Foundation, ont un levier d'action sur la politique européenne avec un budget de 35 millions d'euros en 2018, à peu près équivalence un peu monté en 2019-2020. Et bah voilà, pour des dépenses climatiques, efficacité énergétique, plein de bonnes choses comme ça. Et en fait, la façon dont fonctionne ce type de fondation, c'est qu'elles allouent des financements à des associations sur dossier. Alors parmi celles-là, vous trouverez directement le WWF, vous trouverez des choses comme ça. Et vous avez un entremêlement de financements croisés, font qu'il faudrait effectivement une étude approfondie et des bases de données conséquentes pour se faire une idée des montants réellement investis par la European Climate Foundation. Il y a d'autres fondations hein, dans ce type-là. Mais globalement, pour se faire une idée des montants investis par la finance anglo-américaine, dont le lobbying. Alors cette ECF, oui, quelqu'un veut parler ? Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que cette ECF, en fait, donc, est présidée par Laurence Toubiana, une Française, qui a été nommée par Emmanuel Macron à la tête du Haut Commissariat pour le Climat. Alors, si on passe à la suite, vous verrez par exemple un réseau comme le Climate Action Network Europe, qui est financé par la European Climate Foundation, essentiellement, et qui est en fait une structure intermédiaire qui lui aussi va répondre à des dossiers, qui va proposer des appels d'offres à des associations pour des missions. Alors voilà, c'est du mécénat en fait. Et donc vous retrouvez le WWF, vous voyez. Donc il y a des financements directs, il y a des financements indirects. Vous retrouvez aussi la LPO, Secours catholique, tiens, d'ailleurs étonnamment. Alternatiba, le réseau sortir du nucléaire, vous voyez. Vous avez Greenpeace, vous avez 350.org qui organise les manifestations de Greta Thunberg, des lycéens pour le climat, les vendredis, les marches pour le climat. Vous avez bien sûr France Nature Environnement. Vous voyez, c'est vraiment un réseau touffu de gens qui ils font bien leur métier. Hein. Ils répondent à des offres de financement voilà, en constituant des dossiers. L'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Il faut montrer qu'on a une action pour l'environnement et tout ça. Mais n'empêche que c'est de l'argent qui vient de ces réseaux-là. Je vois qu'il y a plein de notifications. MP. Ok. Voilà, ça je voulais vous montrer ça, je pense que c'est assez édifiant. Mais on va pas s'attarder. C'est juste pour vous montrer que c'est réel, c'est des données. Il suffit d'aller les chercher directement sur le site de la European Climate Foundation, hein, par exemple, ou de la Climate Action Network. Je les ai trouvés. Voilà, je vous propose qu'on fasse une petite pause.
Il y a des gens qui ont des questions ? Ouais, vas-y, Albili. Le salon est en push to talk, par contre. Faut que tu assignes une touche pour activer le micro.
Est-ce qu'on m'entend bien ?
Oui.
Ok. Bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, déjà. Bon, ton travail est extrêmement bien documenté, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'aimerais rajouter deux choses. Dans un premier temps, l'extension agricole. Bon, je vais me présenter rapidement. Certains me connaissent, hein, j'en reconnais certains. Moi, je suis expert forestier, je suis gestionnaire expert forestier en France. Et il s'avère que sur l'extension agricole, on a des données qui sont assez vérifiables. C'est-à-dire que dans les pays développés, en France, au Canada, en général les pays du Nord, on a ce qu'on appelle une augmentation des surfaces forestières et une perte des surfaces agricoles. Pour une simple raison, c'est qu'on a les moyens plus efficaces de production. Moi, je ne suis pas agriculteur, ça ne m'aurait pas la manière dont c'est fait. Mais selon les méthodes, c'est plus ou moins rentable de les mettre en place. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'expansion agricole dans les pays en développement, par exemple, je prends l'exemple du Brésil, qui est un exemple extrêmement connu, c'est notamment pour l'agriculture locale. Ils ont une population qui augmente, une population qui s'embourgeoisise. Ne voyez pas une insulte dans ma bouche, mais c'est une population qui commence à manger de la viande de manière régulière, qui commence à avoir des besoins spécifiques. Voilà. Le soja, c'est pour... comme disait Vincent, sans compter la libre circulation des marchandises. Mais ça, c'est quelque chose d'assez édifiant, parce que ce qui se passe, c'est que ces pays qui sont, entre parenthèses, l'usine du monde, commence à devenir aussi le grenier du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Le bœuf qui est produit au Brésil est destiné aux États-Unis. Et parfois, il arrive que vos enfants à la cantine ne mangent pas forcément du bœuf français. Voilà. Autre chose, les associations que tu nous as présentées. Alors là, je vais parler de mon métier à moi. Quand j'ai un plan de gestion à faire, en général, je vais appeler à l'IPO. Pour que j'ai un naturaliste qui vienne sur cette parcelle pour qu'il me dise voilà, ici il y a telle espèce, il faut les protéger. Donc il faut que je fasse avec. Ces associations, certains sont, on va pas se mentir, ont clairement un gros parti pris. Certaines ne sont pas pour la chasse, alors que j'aurais 1500 raisons de vous dire que la chasse est utile, mais bon, je ne suis pas chasseur aussi. Voilà, donc il faut faire un petit peu de... Comme l'a dit Antoine, il faut avoir un petit regard critique. Ces associations font un travail. Moi, je suis là aussi pour vous dire que ces associations font vraiment un vrai travail. Si jamais il y a des gens qui doutent. Mais moi, personnellement, je ne sais pas qui est financé et je m'en foutais un peu parce que moi, je demande juste des techniciens pour qu'ils viennent me faire le travail que j'ai besoin qu'ils fassent. Mais effectivement, c'est quand même assez intéressant de voir qui finance ça. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire, le lobbying, il y en a partout. L'agriculture ne passera pas outre. L'agriculture a besoin du lobbying. Je suis désolé de le dire, hein, mais les révolutions vertes ne se sont pas faites comme ça. Hein. Il y avait une raison de la révolution verte. La Grande-Bretagne aurait pu très bien dire voilà, les Indiens, c'est plus notre problème, ils peuvent crever à bouche ouverte. Non, mais les pays en voie de développement sont des usines. Il faut vraiment voir ça comme des usines dans la tête de certains concurrents. Il est préférable que ces gens-là mangent bien. Parce que quand ils mangent bien, ils peuvent travailler. Ils travaillent longtemps et pour pas cher. Les révolutions vertes, on fait comme ça. Hein. Je prends une exemple de révolution verte qui a été faite outre l'Inde. On a des révolutions vertes qui ont été faites en Amérique du Sud, qui sont là expressément déjà pour que les gens puissent manger, certes, mais aussi pour l'export. Parce que le soja que vous mangez à Paris, je vous assure qu'il n'est pas français. Les huiles de palme, etc. Sans les révolutions vertes, on n'aurait jamais eu ça. Donc, révolution verte, ça dépend du sens dans lequel on se met. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je répondrai volontiers.
Bah, tu as raison, hein, je suis d'accord. Hein. Borlo, lui, ce qu'il a fait, c'était d'abord le maïs au Mexique. Donc, qu'il a croisé. Donc, des variétés... productives avec des variétés locales pour avoir des variétés productives qui aient les résistances aux conditions des différentes conditions du Mexique. Il y en a plusieurs. Et ensuite, en Inde, pendant le conflit entre le Pakistan et l'Inde, alors que tout le monde disait ah, ça sera la catastrophe parce que bah, les gens ne sont pas en train de semer, et voilà, les gens sont pas... l'économie est désorganisée. Il a envoyé des camions, une trentaine de camions, remplis de semences de haute qualité. Et oui, non, c'était pour des cultures, mais disons vivrières, en tout cas une alimentation des gens. Et pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on appelle les protéagineux, le soja, toutes ces cultures-là, qui sont faites en masse pour l'exportation. Et dont l'Europe est déficitaire. L'Europe ne produit pas suffisamment de ces grains-là, de ces grains qui sont riches en protéines et en lipides pour alimenter le bétail. L'Europe laisse la forêt gagner du terrain, en effet. C'est 2-3%, je crois, de croissance de la forêt en France, en tout cas.
En France, c'est pas 2-3%, c'est... Ouais, c'est... On gagne environ, selon les régions, 8 à 9 000 hectares par an.
C'est énorme. C'est énorme. Il y a un tiers des exploitations agricoles qui ne sont pas reprises.
Après, derrière ça, je vais aussi dire un truc. Excusez-moi, je perds mon français, j'ai travaillé toute la journée. La déprise agricole aussi, c'est aussi fait d'autre chose. En France, on a besoin de beaucoup moins de surface pour produire. Il faut savoir que ce qu'on produit en France, c'est pour beaucoup pour le bétail. Aujourd'hui, on va préférer des choses qui sont extrêmement sucrées, extrêmement gras, pour nourrir ces gens-là, pour nourrir ce bétail-là. Et tout ce qui va être pour l'humain sera de meilleure qualité. C'est-à-dire que on aura des plants plus gros, on aura des plants qui vont moins mourir, qui vont tenir plus longtemps les sécheresses, etc. Voilà, ce qui est la futaie jardinée que nous met Monsieur Poutriquet, oui, voilà, c'est dans tous les sens du terme, la France et l'Europe en général a pour optique de laisser ses forêts pousser, parce que déjà, une forêt, ça rapporte de l'argent. Un exemple tout bête, aujourd'hui, j'ai marqué un arbre qui vaut 14 millions. Voilà, c'est
Qu'est-ce
un
que c'était
exemple.
comme essence?
C'est un chêne qui était planté par l'impératrice Eugénie. Voilà, pour les
Fontainebleau,
plus.
choses comme ça.
Non, à Compiègne. Voilà.
Ok.
Donc, voilà,
Joli,
c'est un,
d'accord.
il y a des arbres qui volent très très cher. Le chêne, ça peut monter à plus de 100 euros le mètre cube.
C'est pour faire
100 francs le mètre cube.
des fûts
C'est
du
énorme.
whisky.
Hein. Ah, c'est pour le merin, par exemple, pour le vin et le whisky après. Mais tout ça, dans le monde agricole, la forêt, ça vaut le coup.
C'est le revenu des
Cependant,
communes, hein. C'est un des derniers revenus des communes, mais
oui.
les maires ne savent de moins en moins le gérer, il y a de plus en plus de néo-ruraux qui ne savent pas faire, et c'est
Le
perdu.
bois vaut cher parce que déjà, le bois, tu fais tout avec. Contrairement à du maïs où tu vas faire peut-être un peu d'amidon, la pâte, le bois, tu peux faire beaucoup de choses. Déjà, l'aggloméré. Donc en général, c'est les bois dits de merde qu'on utilise et qu'on va mettre en aggloméré. Donc ce sera pour faire les meubles IKEA, etc., etc. On a ensuite les bois de grande valeur. Donc les bois qui sont utilisés en menuiserie, en tout ce qui est bois d'œuvre en menuiserie, etc., etc. Après, on a le bois de chauffage qui prend de plus en plus de place en ce moment, même si la forêt publique en France est en crise. Parce que on a des gestionnaires qui ne savent pas gérer une forêt.
Alors, tu vois, par contre,
Mais.
sur la question des associations que tu posais, par exemple, quand
Oui.
je vois le réseau sortir du nucléaire dans les organisations qui sont financées par la European Climate Foundation, bah, d'une part, je trouve ça absurde. Que, la raison évidente, le nucléaire, enfin, ça ne fait pas de CO2. Mais surtout, en fait, je me dis, en fait, on a des associations. Et il y en a qui font un travail intéressant. Hein, tu vois, tu as des experts naturalistes ou autres qui sont dans ces associations. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans celles-là? Parce que c'est celles-là qui sont financées. Pourquoi est-ce que tu n'as pas en fait aujourd'hui des associations comme les écologistes pour le nucléaire, qui est une association qui existe, hein? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas financés, eux? Pourquoi est-ce qu'en fait on met de l'avant certains? Voilà,
Parce
c'est
que
toute l'ambiguïté, c'est toute la façon en fait soft power de faire ces choses-là, dans lesquelles ça devient très compliqué pour les gens de ne pas se positionner pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les OGM, pour ou contre, pour ou contre, pour ou contre. Mais de voir en fait ce qui est réellement, disons, les compétences des gens et les gens qui ceux qui cherchent en fait à tirer les marrons du feu, voilà, les marrons idéologiques, les marrons financiers. Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est essentiel.
Alors, juste pour mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire, le nucléaire ne produit pas zéro carbone, parce que
Ah,
le nucléaire,
tu tombes dans le piège pour ou contre.
attention, il faut le produire carbone, il faut le produire ton nucléaire. Il faut aller dans les mines en Afrique sortir ton uranium.
Oui,
Voilà. Bon, même si en France on a
Kazakhstan,
assez.
Canada aussi, hein.
Oui, même si en France on a largement les réserves pour, mais si
Oui,
tu
oui.
continues à globaliser au niveau mondial,
En France,
faudra le sortir.
on a des réserves pour 1000 ans si on avait fait le projet Astrid, on l'a abandonné à l'été dernier.
Voilà, donc il
Parce qu'on
faut
pouvait
les
faire avec
sortir
les déchets,
ce uranium.
on
Hein.
pouvait faire les ressources. Et pour 1000 ans à consommation constante, moi je pense qu'il faut consommer bien plus, mais c'est un autre débat. On pourra en parler après.
Au niveau forestier, même agricole en général, il faut se dire que les gens veulent faire beaucoup, bien et vite. Bon, à l'échelle d'un champ, c'est 1 an. À l'échelle d'une forêt, c'est 200 ans, certes. Mais il faut faire bien et vite. Voilà.
Oui.
Ah oui, après aussi le thorium, etc., etc. Il y a plein d'autres trucs que
C'est
nous
pour
mettons
ça qu'il faut,
dans
pour ça
l'uranium.
qu'il faut, il faut écouter le prince Philippe. Regarde, la royauté, c'est une instance qui perdure depuis des siècles. Eux, ils peuvent bien gérer, ils vont bien faire les choses. C'est pas comme ces scientifiques là qui veulent utiliser les ressources là. Les ressources pas renouvelables en plus. Bon, je plaisante. Je vous propose de reprendre.
J'aimerais juste répondre à Brassens. Alors non, les forêts ne sont plus en monoculture depuis un petit moment. On est en train de tout irrégulariser et justement, c'est le défi de l'année parce que tout est en train de crever en forêt. Donc on essaie de mettre des essences différentes et des âges différents, donc ça s'appelle la futaie régulière. J'aimerais bien vous en parler ici, mais bon, je suis pas modérateur.
L'encre du châtaignier, forêt de Montmorency, tout ça.
J'en parlerai si un jour on m'invite à en parler.
Right. On repart sur la PAC, la politique agricole commune, qui est en discussion. Alors, ce sont des discussions de type confidentiel, ce qu'on appelle le trilogue. Donc on parle à trois entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, je crois. Et donc en fait, on y discute de l'agenda vert nommé Green New Deal par la commissaire Ursula von der Leyen, qui dès son arrivée à ce poste de chef de l'Europe a déclaré que ça y est, c'était la renaissance de l'Europe parce qu'enfin on avait une grande cause, donc une économie verte pour une Europe, disons, à la pointe de l'environnement, comme la France est à la pointe du démantèlement des centrales nucléaires, hein, bien sûr. On ne sait plus en construire, mais on sait les démanteler. Et donc, le document stratégique qui a un petit peu mis la puce à l'oreille de tout le monde dans les milieux agricoles, c'est Farm to Fork, donc de la ferme à la fourche, pour une juste, saine et éco-friendly organisation du système alimentaire. Et donc on nous dit, dans un jargon technocratique, mais on va vite le défricher, que l'adoption de règles consistantes de certification est la première étape à franchir pour permettre la rémunération de la séquestration du carbone. Les entreprises privé pourrait également vouloir acheter de tels certificats pour soutenir l'action pour le climat. Alors, l'idée de tout ça, c'est que, donc, on parle d'adoption de règles, donc c'est un système normatif, où on proposerait donc aux agriculteurs de mettre en place des pratiques qui émettent moins de gaz à effet de serre ou qui en séquestrent, en échange d'un petit papier, un petit certificat de bonne conduite climatique. Et donc, il pourrait y avoir une rémunération à la clé de la part de la PAC, parce que la PAC, en fait, c'est essentiellement un système d'aide aujourd'hui, et aussi de la part d'entreprises privées. Par exemple, si vous repensez à BlackRock, ça pourrait être ça, ça pourrait être en fait une entreprise comme BlackRock qui fasse ça, ou comme le fonds d'investissement de notre ami Al Gore. Voilà, lui, il est vraiment taillé pour ça, pour tout ce qui est droit à polluer. Alors, on viendrait sur cette plateforme donc des organisations d'agriculteurs, avec tous leurs petits certificats mis bout à bout. Et en face, viendrait par exemple une société comme, mettons, Air France, qui pourrait racheter tous ces petits bouts de papier pour obtenir le droit d'ouvrir une ligne commerciale, Paris, Lyon. Je crois que celle-là elle est encore autorisée par la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, malgré, ce n'était pas dans le projet initial. Bref, je digresse. Mais voilà, ça serait ce système-là. Donc, la possibilité donc, pour les agriculteurs de se faire un peu de thunes, parce qu'ils en ont besoin. Pour les gens qui voyagent en avion, ça dépend. Si ils ne sont pas très riches, peut-être d'y renoncer. Et s'ils sont riches, de s'en foutre, parce que de toute façon, quand on est riche, on ne compte pas. Par contre, là où il faut peut-être réfléchir un peu plus, c'est quelles implications pour la production. Parce que c'est quand même ça, l'agriculture, c'est de produire. Et j'en profite pour faire un petit rappel sur ce qui a été la PAC, historiquement. Politique que les Britanniques, excusez-moi, vous allez croire que je m'acharne, n'ont pas voulu au départ. Et qui en fait donc une politique de prix qui est assurée par des stocks. C'est-à-dire que si vous faites des stocks, bah, quand il n'y a pas assez de produits une année pour différentes causes météorologiques, vous déstockez et ça permet que bah, les gens aient tous à manger et que donc les prix ne s'envolent pas. C'est quand même vital. Donc, c'est la chose qui, voilà, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus et on peut dépenser sa fortune. On peut sortir les louis d'or quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas de nourriture. Et inversement, quand il y a trop de production, des années de vaches grasses, eh bien, comme dans l'Ancien Testament, eh bien, les pharaons pouvaient stocker et permettre de réguler aussi les prix pour les producteurs, faire en sorte que les prix ne s'effondrent pas, parce qu'effectivement, tous les producteurs veulent écouler leurs marchandises, et s'il y en a trop, il y a quand même aussi une limite à ce que peuvent consommer les gens. Et à ce moment-là, bah, c'est les producteurs qui sont prêts à brader pour s'assurer d'équilibrer leur budget, tout simplement. Donc cette politique, c'est une politique de prix juste pour les producteurs et les consommateurs. Et bien ça a été complètement balayé en 1992, encore, année de la... Pourquoi encore ? Parce que c'est l'année de la conférence de Rio. Et 92, c'est aussi ça. C'est l'année en fait, où on change la PAC et on dit maintenant le but de l'agriculture, bien, c'est d'être écologique. Alors bien sûr, il faut, mais ça a été surtout un moyen de dire c'est pas de produire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette situation où un tiers des exploitations ne sont pas reprises et la moyenne d'âge de l'agriculture, c'est 55 ans. Voilà, donc on a laissé les prix s'effondrer. Et ça, c'est criminel. Parce que ça ne crée pas la possibilité dans le futur pour avoir une alimentation. Ce n'est pas juste une question technique, ce n'est pas juste une question d'environnement, c'est pas juste une question d'économie. C'est une question d'assurer l'alimentation dans le futur. Et aussi une question voilà, de cartéliser. Parce que d'un côté, vous avez une agriculture qui va se concentrer, ce qu'on appelle des méga-fermes. Alors, il faut voir qui les tient et s'il y a une possibilité de transmission à des particuliers, ou si c'est des banques qui doivent les racheter, tellement elles sont capitalistiques. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a effectivement une concentration verticale de l'agriculture dans la finance et l'agroalimentaire. Donc tout ça, c'est des questions très importantes pour les agriculteurs. Et la transmissibilité est essentielle. Il faut voir comment le modèle économique peut permettre cette transmissibilité, et notamment pour les jeunes de s'installer en souscrivant à des crédits raisonnables pour acheter ces choses-là. Alors d'un côté, vous avez cette concentration qui est vraiment un agro-business où eux pourront tout à fait répondre à tous les cahiers des charges, cocher toutes les cases, comme quoi ils sont... environnementalement les meilleurs. Prenez, c'est l'exemple de la ferme des 1000 vaches, on cite, bon, pour en discuter, moi je ne suis pas forcément totalement opposé, mais ce qu'ils mettent de l'avant, c'est la possibilité, vu que c'est 1000 vaches, d'un centre de méthanisation. Et ça, c'est écologique, par exemple. Donc, vous voyez la dérive. Et de l'autre côté, bah, des aides clopinettes pour vivoter avec une agriculture... avec trois chèvres, bio. Attention, hein, je ne dis pas que tout le bio est comme ça. Mais voilà, de plus en plus de gens qui sont un peu cooptés aussi à ce schéma un peu semi-survivaliste, où on sait que de toute façon, il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Hein. Un d'entre vous le mentionnait dans le chat. L'économie tend à intensifier la production, alors c'est le paradoxe. Et du coup, il y a moins de travail. Et voilà, donc il y a ces moyens de subsistance qui sont aussi un peu mis en place avec une vision qui est celle, donc, on va dire, de la féodalité britannique. Je passe à la suite. Donc, en clair, donc, le décryptage de ce qu'on a vu plus haut, eh bien, c'est que une agriculture décarbonée, c'est une agriculture qui va produire moins de viande. Et c'est explicite dans le document Net Zero 2050 de la European Climate Foundation, où ils disent, voilà, carte sur table, la consommation de viande doit être réduite de moitié en 2050. Il ne faut pas accroître la consommation de produits laitiers. Si on va éviter un tiers des émissions agricoles d'ici à 2050. Donc, vous voyez, toutes ces choses, on joue différents modèles qui, en apparence, sont opposés, mais au final, on arrive sur des conclusions d'une réduction de la production de la consommation de viande et de la production de viande. Par exemple, le True Animal Protein Price, eux, ils ont à peu près le même chiffre. Hein. Ils disent qu'il faut réduire la consommation de viande de 67%. Eux, ils proposent de mettre en place une taxe carbone de 25% sur la viande rouge, un peu moins sur la viande blanche, tatati, tatata. Que je veux vous faire comprendre avec cette chose de Farm to Fork, le Green New Deal, la PAC nouvelle qui arrive, c'est que dans ce qui est proposé aux agriculteurs, on ne va pas leur donner un certificat environnemental, un certificat climatique, parce que, par exemple, leurs vaches sont à l'herbe. On leur donnera seulement s'ils passent un élevage qui est en intérieur avec des fourrages et donc des cultures fourragères qui sont retournées avec le tracteur, ce qu'on appelle intensif. S'ils passent de ça à la prairie, alors là, oui, là, on leur donnera. Mais ça veut bien dire une réduction de la production. Donc derrière tout ce verbiage, quand on va gratter dans le détail, et ce que font les syndicats, bien on voit en fait que la finalité, elle est là, parce que c'est sur ce type de critère. C'est pas sur est-ce que vous faites bien, c'est est-ce que vous acceptez d'aller vers, quitte à réduire la voilure. Alors encore une fois, c'est comme pour l'avion. Ce n'est pas tous les consommateurs qui vont réduire leur consommation de 67%, que sais-je là. C'est le bas de la pyramide qui va arrêter totalement d'en consommer, la classe moyenne qui va mettre plus d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le budget alimentaire des ménages, c'est 17% en France. Ça pourrait être un peu plus. Et par contre, les très riches, eux, continueront, ils ne changeront pas leur assiette. Hein. C'est d'ailleurs un élément qui m'a interpellé en visionnant la conférence de Jean-Marc Jancovici devant les éleveurs du Jura. Une discussion très intéressante sur tous les aspects techniques. Et l'animatrice a dit « Oui, voilà, quand même, il y aura cette question sociale de l'accès, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on passe. » Et effectivement, ça n'a pas plus fait réagir les uns et les autres. Je ne m'en étonne qu'à moitié. Et je pense que ça, c'est lié à une idéologie française qui, voilà, je pense, nous enferme quelque part dans les équations où on va accepter effectivement de considérer comme justifié l'approche de True Animal Protein Price ou de la European Climate Foundation, parce que oui, les vaches, ça fait du méthane. Ça rote, ça pète, c'est un gaz qui est à effet de serre plus puissant que le CO2. Il y a plein de graphiques là-dessus, c'est une vraie variable de l'équation. Et je pense que voilà, il faut se faire une idée qui soit moins faussement réfléchie de ce qu'il y a derrière tout ça. Et notamment sur les conséquences, les décisions à prendre. Et je vous invite à passer à la slide suivante, où on change de sujet, mais en fait, on va rester là-dessus, parce que c'est la question philosophique. Aujourd'hui, on est entouré d'experts qui pensent en termes de toutes ces variables. Alors, il y avait la variable de la population dont je vous parlais, avec ces gens dans les années 60, je n'ai pas mentionné son nom, mais par exemple Paul Ehrlich, qui effectivement était celui qui disait que l'Inde n'y arriverait jamais à l'autosuffisance, hein, l'autosuffisance alimentaire. Voilà, vous avez tous ces experts qui vous disent « Oui, regardez, donc, le méthane, donc, si on joue sur telle variable. » Alors tout ça, voilà, c'est pas proprement humain. C'est robotique. C'est algorithmique. C'est ce qui est. Et si vous prenez les scientifiques, c'est là que ça devient philosophique, les scientifiques de la Renaissance, les humanistes, eux ont rompu avec ce système justement de, on va dire, logique, déduction, très en vogue aujourd'hui quand vous avez des ingénieurs qui vous parlent de climat, par exemple. Et ont adopté la posture platonicienne. C'est toute l'œuvre au XIVe siècle, notamment à Florence. Léonard est un protégé des Médicis. Et comme de Médicis se fait traduire Platon, qui brise totalement cette idée que l'être humain, cette idée aristotélicienne, que l'être humain est un animal. Non pas que voilà, il était sorti de la cuisse de Jupiter ou je ne sais quel mythe, mais l'idée platonicienne est que l'être humain n'est pas totalement déterminé par ses sens. Là où les animaux, ils ont évolué, l'espèce humaine évolue par des individus. Ce n'est pas une détermination biologique. Ce sont des gens comme Léonard de Vinci, des créateurs, en d'autres termes. Et aujourd'hui, vous avez cette philosophie animaliste, antispéciste, basée sur, étonnamment, d'ailleurs, une philosophie britannique, qui est l'empirisme. L'empirisme, c'est jugé par ses sens. Vous en avez une donc, qui dérive de ça, qui est l'utilitarisme. Donc, c'est-à-dire, puisque mes sens me permettent de jouir des plaisirs de ce monde matériel, n'est-ce pas, mais aussi d'éprouver certaines souffrances, eh bien, tout naturellement, je vais fuir ces souffrances et rechercher ces plaisirs. Et l'être humain serait donc déterminé par ces deux déterminants, recherche des plaisirs et fuite des souffrances. Ça, c'est la doctrine de Bentham, Jeremy Bentham, et de ses élèves, notamment Thomas Malthus et Adam Smith, qui le dit aussi explicitement, puisqu'il est philosophe moraliste dans la théorie des sentiments moraux. Voilà, c'est l'économie, c'est ça, c'est vous laisser les individus rechercher les plaisirs et fuir les douleurs, et vous allez maximiser le plaisir général. Et bien ça, voilà, c'est le fondement aussi, l'utilitarisme, de la pensée de Peter Singer. Voilà, c'est un élève de Bentham, c'est un élève de l'empirisme britannique. C'est donc un élève de ce courant de pensée qui tente de remettre le couvercle sur la renaissance platonicienne du, je dis 14e, 15e siècle, pardon. Et voilà, ce qu'elle inspire encore jusqu'à aujourd'hui, je pense, en Occident, peut-être pas, voilà, après c'est des champignons, ça pousse. Et donc, cette citation de Peter Singer que je veux vous dire, c'est quelque chose d'assez choquant. Effectivement, lui-même cherche à provoquer. Quand il dit, en fait, nous devons nous demander si nous sommes également prêts à autoriser cette même expérience, il parle d'une expérience de laboratoire, sur de jeunes enfants humains ou des adultes attardés mentaux. Si nous faisons à ce sujet une différence entre les animaux et ces êtres humains, sur quelle base pouvons-nous la fonder ? Si ce n'est un parti pris cynique et moralement indéfendable en faveur des membres de notre espèce. Alors, c'est très bien, il a une sensibilité pour les animaux. Et je pense qu'on est tous à peu près comme ça. D'autant qu'on vit dans une société qui a les moyens de nourrir ses animaux domestiques. On n'est pas dans une société de subsistance où l'animal est un outil. Donc effectivement, ça fait partie d'un changement de société dans lequel on éprouve une plus grande empathie pour les animaux. La question se pose en ces termes-là, mais pas dans les termes de Peter Singer, à mon avis. Ou en tout cas, si c'est le cas, eh ben, je vous invite à lire Platon pour faire cette redécouverte de la culture humaniste. Alors, c'est pour ça que je me suis un peu amusé avec les figures des léonards, parce que le courant végan s'approprie Léonard en disant qu'il était végétarien sur la foi de citation un peu douteuse. Alors c'est possible, hein, mais c'est surtout pas le fond de ce qu'il était, parce que c'est le dessinateur de l'homme de Vitruve, c'est donc le grand humaniste qui place la créativité humaine, disons, on va dire, au centre de l'univers, l'être humain au centre de l'univers ou sa créativité, pour être plus précis, et non pas en être prédateur, comme on le présente souvent en disant, voilà, la genèse, c'est le problème. En vérité, il n'y a eu ni l'an d'aristotélicisme dessus, pour en tirer plutôt la section, puisque la genèse se fait en deux temps, il y a une partie, on va dire, babylonienne, où l'être humain est fait avec de la glaise, et tous les joyaux et toutes les êtres rampants et volants et ceci et cela sont à son service. Alors ça, effectivement, je pense que c'est pas du tout la bonne vision. Et puis il y a celle d'un courant très différent où il est dit que l'être humain est créé à l'image du créateur. Et donc c'est tout un courant dans la Renaissance où on dit il est co-créateur. Loin de moi l'idée de faire plus de théologie pour ce soir, mais je pense que c'est un peu nécessaire pour replacer le débat sur le terrain de l'identité, puisqu'aujourd'hui toutes les identités sont le sujet. Il faut se positionner par rapport à ça. Et comme disait Léonard, beaucoup de descendants seront arrachés par des coups cruels des bras même de leur mère, et jetés à terre, et écrasés. Mais il avait le sens de l'humour et il parlait des olives. Pour conclure, il y a une vision en Chine très différente de ce qui est proposé par l'Occident, donc aujourd'hui par les gens du Forum de Davos, à travers ce fameux Great Reset, grande réinitialisation, où on veut décarboner l'économie mondiale, on essaie d'attirer la Chine dans cette politique qui est déjà première. Elle fait déjà celle qui produit les panneaux solaires, celle qui est numéro un dans tous les domaines de la production verte. Et il y a une volonté de la coopter là-dedans, avec les concepts de sustainable development, par exemple, développement soutenable ou durable en français. Eux, ils préfèrent le sustained development, le développement soutenu, le développement dur, on va dire. Et ils ont une conception de ne pas s'opposer frontalement, mais ce qu'ils entendent par écologie est très différent de ce qu'on entend en Occident, parce que pour eux, c'est cette vision dont on parlait, d'intensification, qui permet d'épargner la nature. Et c'est une vision aussi de restauration. C'est pas juste une vision conservationniste, on va dire, comme ces nobles, l'aristocratie qui faisaient des safaris en Afrique, dans les colonies, et qui maintenant veulent faire des parcs naturels partout, interdire qu'on fasse des canaux, interdire qu'on fasse des chemins de fer. On a mis un tiers. Là, c'est le projet de mettre un tiers des surfaces du globe en zone protégée. Il y a sûrement à faire, hein, mais gardons en tête qui le fait et pourquoi. Et à la FAO, maintenant, on a un Chinois à la direction. Je ne suis pas bien sûr de la prononciation, je pense que ça se dit Se Dongyun, qui est directeur de la FAO. Il a annoncé le lancement de l'initiative Une Grande Muraille Verte pour les villes. Alors le pour les villes, c'est un complément, parce que la Grande Muraille Verte, ça existait déjà. C'est un projet notamment des indépendances africaines avec Thomas Sankara, le Sénégal est le pays qui a le plus œuvré, où on mobilise l'armée, on fait des choses. Autant vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose avec l'armée française au Mali pour la Grande Muraille Verte. Ça, c'était en 2019. Et si vous voyez sur la carte, donc c'est toute une idée en fait, de faire un mur de 45 km de large, un mur végétal, un mur forestier, et de créer aussi en arrière des villes, réellement des villes modernes pour l'Afrique. Ils ne le mettent pas sur leur carte. Moi, je la mets sur celle de Solidarité et Progrès, mon mouvement, où c'est toute l'idée d'un réseau de chemin de fer également. Vous avez la ligne de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, qui est assez emblématique de ça. Et énormément de projets sont dans les cartons. Le projet de Sankara, c'est dans les années 80, ça fait 40 ans. Ouais, vous pensez que la France a fait quelque chose pour faire des villes correctes, pour avoir Bamako avec un système d'épuration des eaux, que tout ça ne parte pas dans le fleuve Niger, qu'on ait une ville de Tombouctou qui soit réellement une ville de renaissance, comme ça a été un carrefour panafricain dans les périodes des royaumes. Eh bien non, on ne fait rien de tout ça. Et on critique la Chine, alors ça y va. Donc voilà une vision, moi, qui me semble intéressante. C'est donc une vision aujourd'hui qui est reprise, et voilà, vous voyez toujours cette façon de faire où on coopte, reprise par le Forum économique de Davos. Alors eux, ce qu'ils ont proposé, donc, c'est la Grande Muraille Verte, ils arrivent un peu tard, et ils disent, alors par contre, on fera 15 km, pas 45, de largeur, et puis ça sera couplé avec des énergies renouvelables, parce que, quand même, ils ont réfléchi, parce que sinon, les gens vont couper le bois. Et oui, il n'y a pas d'énergie. Sauf que tout le monde sait bien que ces projets-là, ben voilà, ça fait 40 ans que tout le monde en parle, que l'Occident en parle, et que rien ne se fait. C'est encore un éléphant blanc pour tenir les gens, les coopter, leur faire accepter, temporiser, et essayer de garder son précaré. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, en fait, la France devrait développer des centrales nucléaires en Afrique. Voilà, je pense que ça serait réellement un vrai projet écologique, développer des compétences là-bas. Ce que font les Russes, d'ailleurs. Et développer et intensifier l'agriculture. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. Là, je finirai là-dessus, je voulais commencer là-dessus. Vous avez un bon gros milliard d'agriculteurs, en fait, qui n'ont ni tracteur, ni traction animale, qui travaillent à la houe, qui labourent à la houe. C'est-à-dire une espèce de pioche en forme de pelle, et qui travaillent comme ça. Ils n'ont pas non plus de machines pour enlever les enveloppes des grains. Donc les femmes doivent fouetter le grain longuement. Ils n'ont pas de transport pour amener au marché, à des zones de consommation. Ils n'ont pas de transport pour acheminer, en cas de mauvaise météo, les excédents d'autres pays. Les villes, elles, peuvent importer les productions étrangères. Donc les famines peuvent être évitées, mais pas à l'intérieur des pays. Et oui, surtout, ils n'ont pas de système de réfrigération. Voilà, donc c'est l'agriculture, c'est pas juste l'agriculture. C'est l'économie, c'est vraiment le développement. C'est pas dans son jardin, c'est à l'échelle au moins, disons, européenne pour l'Europe et panafricaine pour l'Afrique. Et la preuve, les gens qui avaient un sens de ça ont fait ça très bien au départ avec la politique agricole commune. Et aujourd'hui, c'est en train d'être complètement détruit. Si on n'a pas ce sens-là, eh ben en fait, on permet que, voilà, qu'il y ait des zones au Niger où la production est bonne, où le grain s'entasse et pourrisse. Et au Soudan, où la production, une année, n'est pas bonne, alors que c'est un grenier potentiel énorme. Le Soudan, il y a un potentiel énorme. Il y a beaucoup d'eau, elle est mal utilisée. Bah là, à ce moment-là, pénurie, hop, parce qu'il n'y a pas de transport. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui gaspille plus de nourriture. 60% de gaspillage alimentaire en Afrique. À cause des rongeurs, à cause des champignons, à cause de la faute au manque d'infrastructures. Ce n'est pas écologique. Et la Chatham House, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc ce think tank de l'oligarchie britannique, d'ailleurs j'ai un doute de vous en avoir parlé. La Chatham House donc a fait un rapport, si je vous en ai parlé rapidement, où elle dit que voilà, il faut réduire la production agricole, il faut voilà, éviter que l'agriculture empiète, ça très bien. Eh bien, c'est aujourd'hui un système auquel vous avez des résistances au sein même de la finance, de gens comme la Fondation Farm qui, eux, ont un sens de ce qu'est la production, de ce qu'est l'avenir pour un monde avec des belles villes, avec des beaux territoires, peut-être un peu moins de forêts, c'est ce qu'ils disent, voilà, il y aura quand même moins de forêts, mais on peut épargner la forêt en intensifiant. Enfin voilà, je vous présente un peu de bibliographie, notamment deux rapports des organisations avec lesquelles je travaille, donc le Parti Solidarité et Progrès, qui a fait un rapport de 150 pages sur réellement les réseaux, c'est un document de renseignement. À l'époque d'Internet, on pense être, disons, renseigné, on sature d'informations. J'espère que cette présentation vous aura pas fait cet effet, qu'elle aura quand même marqué sur vous un sentiment de quelque chose d'un peu différent de ce flot du net. Et le rapport sur les nouvelles routes de la soie, 480 pages, avec toutes les cartes, avec tous les projets d'infrastructures, de canaux, de chemins de fer, de systèmes énergétiques hydroélectriques et de références, disons, pour une coopération avec des références aux penseurs nationaux des différents pays pour pouvoir créer ce dialogue et faire en fait cette politique de grands travaux, parce qu'elle nécessite en fait beaucoup de dialogue. Et il faut faire comprendre ce que c'est, et donc il faut aller dans la culture de l'autre. Enfin, voilà, si vous voulez regarder le court article de la Fondation Farm contre la Chatham House, donc cet institut de l'oligarchie britannique, voilà, je pense que ça vous donnera un petit sens de résistance en France. Et puis un article bon, qui ne va pas dans le détail, mais qui montre un peu la façon de penser chinoise de la FAO avec cette grande muraille verte pour les villes. Je vous remercie. Si vous voulez discuter.
Yes, merci beaucoup. Merci Antoine. Je vais aller relancer les bottes et pour qu'on puisse passer aux questions.
Oui, ça fait une heure. Alors, on va faire 30 secondes de silence.
Super, merci.